Bonjour et merci de vous savoir très nombreux à l'écoute du premier numéro du débat politique de ce mois d'octobre. Nous traitons de la question des litiges fonciers qui prennent de l'ampleur ces derniers temps. Les tribunaux sont submergés des affaires impliquant les agents du service de cadastre, la vente de terrains des particuliers, le détournement des titres fonciers, l'expropriation de terres, la vente de terrains appartenant aux occupants traditionnels et surtout la vente de terrains de terre aux étrangers. Bref, la liste est longue, du ministère de l'Urbanisme aux forces de défense et de sécurité, en passant par les juges et les chefs des quartiers. Tout le monde a sa part de responsabilité dans cette affaire. Un rappel pour la rentrée judiciaire 2021-2022. Les juges centrafricains avaient pour le slogan « Les contentieux fonciers ». Le contentieux foncier avait constitué en 2020 41% de l'ensemble des affaires qui avaient été soumises à l'arbitrage des juridictions nationales, et les professionnels du droit de conclure que 80% des affaires traitées aux tribunaux de grande instance de Bangui et de Bimbo concernent les ventes illégales de terrains et propriétés. Voilà tant de questions, de sujets qui touchent nos auditeurs et qui inquiètent plus d'un. Question, quelle est la responsabilité du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat dans ces affaires? Pourquoi cette situation va de mal en pis et met en conflit les Centrafricains alors que le pays dispose de plus de 623 000 km2? Et pour en parler, j'y reçois M. Pamphile Maleyombo, directeur de cabinet au ministère de l'Urbanisme et ancien candidat à la députation dans la première circonscription du 4e arrondissement de Bangui. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Oui, Madame Nathalie Constance Gounebana, bonjour.
Bonjour Armando et bonjour à toutes nos auditrices et auditeurs.
Présidente des femmes de l'opposition démocratique, enseignante, chercheuse à l'université de Bangui et ancien ministre des Eaux et Forêts. Et Joseph Bindoumi, magistrat hors hiérarchie, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme et ancien ministre. Monsieur Bindoumi, bonjour et bonjour à tout le monde aussi.
Oui, bonjour, bonjour aux auditeurs de Radio Ndikeluka.
Voilà, tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndikeluka.
Voilà, nous ouvrons le débat ou bien le bal avec vous, Monsieur Maleyombo. Qu'est-ce qui explique la montée des litiges fonciers ces derniers temps à Bangui?
Merci beaucoup, Monsieur Armando. Vous savez que le département de l'urbanisme est le seul département qui gère la terre. Dans les attributions de ce ministère, il est question de faire la promotion, la politique d'urbanisation, d'aménagement de nos villes. Et la République centrafricaine, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, n'a pas un outil spécial pour la planification d'aménagement d'urbanisation de la ville. À l'époque, avant l'indépendance, c'était le colon qui avait tracé la ville de Bangui et à un périmètre bien limité. Et au-delà de cela, ils ont laissé la population occuper les autres secteurs de la ville de Bangui ou avec des occupations anarchiques, d'où les quartiers précaires qui se naissent un peu partout. Le cas de Bakondia, le cas de Seydou, ainsi de suite. Et ces quartiers ne sont pas, à l'époque, ne sont pas urbanisés. Du coup, ça crée des soucis. Des soucis, des limites de parcelles entre les voisins et entre deux voisins. Et tout cela, ça engendre des contentieux, des litiges au niveau du ministère de l'Urbanisme. Au-delà de cela, le dernier schéma directeur de la ville de Bangui date des années 72 jusqu'à ce jour. Il n'y a pas eu un autre schéma puisque la ville s'agrandit, il fallait adapter la politique, c'est-à-dire que d'agrandissement de la ville avec des nouveaux outils de planification. Malheureusement, ça n'existe pas. Et du coup, la population s'installe de manière anarchique. Vu que la ville de Bangui est déjà saturée, les gens cherchent à avoir des parcelles un peu partout dans les périphéries de la ville de Bangui. Et de manière anarchique, ces gens-là construisent comme ils veulent. Et il fallait organiser la population. C'est ce que le ministère est en train de faire en ce moment, avec des projets d'aménagement par-ci, par-là, pour essayer de freiner les constructions anarchiques, freiner les occupations anarchiques de ces parcelles. Et du coup, à l'exemple de la ville de Bangui en ce moment, vous allez dans les quartiers, il y a toujours des contentieux, des litiges entre deux voisins. Du fait que le quartier n'est pas urbanisé, il y a des chevauchements, des limites, ainsi de suite, et ça crée des soucis entre la population. Et ça, cependant, au niveau du ministère de l'Urbanisme, nous recevons beaucoup de requêtes dans ce sens, les questions des litiges entre les voisins. Et également, vu qu'il n'y a pas un outil de planification, le ministère de l'Urbanisme n'est pas resté les bras croisés, il fallait aménager les zones périphériques de la ville de Bangui. Le cas de
Lantjaboko,
sur la route de Mbaïki, les Balongo, le Bimbo, sur la route de Boali, les Baloko, ainsi de suite. Et tout ça, là, c'est pour aider la population à mieux s'installer et tout en évitant les questions de limites, ainsi de suite, puisque la zone est déjà bien tracée. Et malgré cela, il y a toujours des contentieux. Des contentieux du fait que quand l'État arrive, le ministère de l'Urbanisme veut aménager un secteur. Par exemple, prenons le cas
déjà de occupé par les occupants.
Occupant par les occupants.
Cette autologie, voilà. On est obligé de le dire.
Voilà. Mais le terme occupant traditionnel, là, je pense que nulle part ça existe dans les textes de notre pays. Mais quand on arrive sur le terrain, on le retrouve. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les gérer. Il faut les gérer et puis essayer de les contenir dans les projets d'aménagement que nous faisons. Mais ça crée toujours des problèmes. Ça crée des problèmes du fait que, une fois que le ministère de l'Urbanisme a identifié un site pour mettre en valeur, pour urbaniser, ces occupants traditionnels souvent s'opposent au projet d'urbanisation. S'opposent.
Mais on y revient parce qu'il semblerait que c'est le retard causé dans ce travail par le ministère ou par le gouvernement d'aménager, puisqu'ils sont là, ces occupants traditionnels, ils ont pris du temps, peut-être 2 ans, 10 ans, 15 ans, et puis on vient, par exemple, les déloger, c'est ça qui fait problème.
Mais effectivement, parce que quand je disais tantôt qu'il n'y a pas un outil de planification de nos villes, il n'y a pas un outil. Depuis 72 jusqu'à ce jour, ça fait beaucoup d'années quand même, il n'y a pas un outil de planification. Donc, les gens s'installent comme ils veulent. Et du coup, ça crée des problèmes, ça crée des soucis. Et lorsque le ministère de l'Urbanisme veut intervenir dans ce secteur pour le développer, nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués par le phénomène des occupants traditionnels. Mais souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des recensements de ces gens-là. Nous les recensons, et on dresse le rapport, et dans le projet d'aménagement, lorsqu'on va ouvrir les voies, ces gens-là, souvent, sont relogés. Sont relogés. Ben, ils ne peuvent plus bénéficier de la superficie traditionnelle qu'ils conservaient à l'époque. Mais on va les soumettre à la nouvelle disposition, au règlement d'urbanisme, c'est-à-dire à la disposition de nouvelles parcelles que, conformément au plan d'aménagement établi par les techniciens du ministère. Et souvent, c'est ça qui crée le problème. La personne qui s'est installée en amont veut conserver la totalité de sa parcelle, alors que non.
Mais parce qu'il y a eu des travaux d'aménagement que la personne a fait.
Il y a eu des travaux d'aménagement.
Il y a des arbres qu'il a plantés, etc.
Non. Dans le cas d'espèces, dans la plupart des aménagements que nous faisons, quand on arrive, c'est que c'est des petits champs de manioc. Il n'y a pas une culture pérenne comme la culture de cacao, la culture de café, la culture de cela. Non, il n'y en a pas. Et vous arrivez parfois, il n'y a pas de champs. Il n'y a pas de champs, mais il n'y a que des herbes. Et ça appartient. Toutefois, il y a une personne qui va surgir pour dire que voilà, ça m'appartient. C'est tel qui m'a vendu, alors que ça nous bloque. Nous nous référons au texte de loi. La loi de 1964 dit que la terre, c'est pour l'État. La terre appartient à l'État. Seul l'État est détenteur, il peut donner à qui il veut. Mais si on arrive sur le terrain et qu'il y a une emprise, il y a une assiette, c'est-à-dire une culture réelle sur le terrain, c'est à partir de ce moment que ces gens-là seront identifiés et c'est à eux-là qu'on doit indemniser ou alors le compenser. Mais quand on arrive dans des travaux, dans
les endroits,
il n'y a que des herbes. Ces herbes-là appartiennent à qui? C'est ça la question que nous nous posons.
Voilà, on y revient, vous avez beaucoup développé. On va donner la parole aux autres pour comprendre cette question. Madame Gounebana, qu'est-ce qui explique, selon votre compréhension, votre analyse, votre enquête, la montée des litiges fonciers ces derniers temps en Bangui?
Merci beaucoup Armando. Je pense qu'on ne peut pas parler de litiges fonciers sans parler de la pression urbaine. Hein, de la pression urbaine, de la croissance urbaine. Vous savez que aujourd'hui la population de Bangui est estimée à plus d'un million d'habitants. Et aujourd'hui, la ville s'est étalée. Hein, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, la superficie de la ville s'est multipliée par 10. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros besoin, il y a une grosse demande en terrain, hein, en foncier. Et ce que le ministère de l'Urbanisme devrait, en principe, faire, c'est de pouvoir prendre le contrôle de la situation. Là, le directeur de cabinet vient de dire qu'il n'y a pas les outils. Il n'y a pas les outils de la planification pour prendre le contrôle de la situation. Et Ce qui fait que on assiste à ce qui se passe sur les terrains aujourd'hui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens, ils arrivent, ils s'installent, alors que c'est le ministère de l'urbanisme qui doit passer avant, lotir, viabiliser les zones, et maintenant la population vient s'installer. Mais comme il y a la pression, je vous dis que la demande, elle est tellement forte en terrain, comme il y a la pression, eh bien, les espaces qui sont laissés vides, qui sont pas lotis par le ministère de l'urbanisme, eh bien, les gens, ils viennent, ils s'installent, et en s'installant, ça crée ce qu'on appelle des quartiers informels. Des quartiers informels où les routes n'ont pas été prévues, pas d'accès à l'eau potable, pas d'électricité, et ça crée ce qu'on appelle des enclaves. Vous voyez, il y a des quartiers comme ça, très proches de Bangui, comme le quartier Seydou, un quartier comme le quartier Bakunja, qui les gens se sont installés spontanément et aujourd'hui ça crée des enclaves.
Et même au centre-ville.
Et ça donne maintenant du travail maintenant au ministère de l'urbanisme de réorganiser, de rétablir la situation. Et c'est extrêmement difficile parce que le quartier Seydou, par exemple, aujourd'hui, rien n'a été fait. Toutes les tentatives d'essayer de réorganiser le quartier, toutes ces tentatives ont échoué et le quartier est resté aujourd'hui comme tel et ça pose vraiment des problèmes. Donc moi, quand le directeur de cabinet parle d'absence d'outils de planification, moi je me dis que c'est pas quand même les ressources humaines qui manquent. Moi, à l'époque, quand j'étais étudiante à l'université de Bangui, c'est là où j'ai connu nos premiers ingénieurs qui revenaient de l'école d'architecture de Lomé. Donc, depuis ces générations-là, il y a eu plusieurs vagues d'étudiants qui ont été envoyés au Burkina Faso, au Togo, je sais pas, en Côte d'Ivoire, pour faire l'urbanisme, l'architecture, et qui sont là, les ressources humaines sont disponibles. Donc aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une très grande disparité entre les ressources humaines disponibles au sein du département de l'urbanisme et les réalisations qui sont faites sur le terrain. Pourquoi ces ressources humaines ne sont pas utilisées et pourquoi la ville de Bangui ne dispose pas d'un schéma directeur d'urbanisation? Un schéma directeur d'urbanisme, ne fût-ce qu'un plan d'urbanisme. On sait qu'il y a un plan qui a été fait depuis. Ce plan devait faire l'objet d'actualisation. Mais pourquoi ça traîne? Et plus ça traîne, vous savez que le taux de croissance de la ville de Bangui est estimé à 2,7% par an. Donc, à force de traîner au niveau du ministère de l'urbanisme, la dynamique s'installe. Et le ministère de l'urbanisme ne peut que réagir comme un médecin après la mort, comme un médecin légiste, au lieu d'être là comme un médecin dans la prévention, dans la thérapie, mais agit plutôt comme un médecin légiste, arrive quand les gens se sont déjà installés, les quartiers sont déjà installés et ça devient difficile. Donc aujourd'hui, il faudrait peut-être essayer de voir comment le ministère de l'urbanisme peut reprendre le contrôle de la situation, de réorganiser les choses. Voilà, donc moi, je suis plus dans les questionnements et heureusement que le directeur de cabinet du ministre.
Je rappelle que Madame Gounebana, vous êtes enseignante chercheuse en géographie. Aussi, vous maîtrisez bien ce domaine.
Je maîtrise parce que l'urbanisme et l'aménagement du territoire ont fait partie de ma formation de base.
Monsieur Joseph Bindoumé, votre réaction rapidement sur la question, sur ce que vous-même vous constatez, la plainte ou les plaintes des Centrafricains concernant les litiges fonciers.
Je crois que j'ai suivi mes co-débatteurs, donc je ne suis pas obligé de suivre la piste de mes co-débatteurs.
Ça, c'est votre droit.
Ça, c'est mon droit. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est que il faut, pour nos auditeurs, savoir que la République centrafricaine ne manque pas de documents qui lui permet de gérer l'urbanisme en République centrafricaine. La République centrafricaine ne manque pas de ça. Je voudrais rappeler ici à vos auditeurs que nous avons une loi 63.441 qui a été adoptée en République centrafricaine et promulguée le 9 janvier 1964. Et dans cette loi, c'est la meilleure des lois de la République centrafricaine puisque le domaine de l'État, l'ensemble du territoire de l'État, a été réglementé. Et donc vous trouvez dans cette loi, dont nous allons peut-être tout à l'heure en avançant le débat articulé, vous avez le domaine public de l'État, donc domaine public naturel, domaine public artificiel. Vous avez donc des textes qui ont bien été identifiés. À quel moment, qu'est-ce que l'État doit faire du territoire national? Quels sont les domaines que l'État a à sa disposition, comment l'État peut classifier les domaines du territoire dans lequel on se trouve. Vous avez dans ce texte très important le domaine privé qui permet de savoir, en application de cette loi, à quel moment l'État peut concéder une partie de la parcelle de la terre nationale, à quel moment l'État peut récupérer la parcelle qui a été concédée, à quel moment quelqu'un qui avait été propriétaire de la parcelle, peut-être qui est décédé, comment l'État peut succéder, comment l'État peut donner les parcelles qui sont entre ses mains. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a une législation très importante qui existe en République centrafricaine, avec aujourd'hui en République centrafricaine les meilleurs techniciens qui sont là, dans les départements des travaux publics, de l'urbanisme et autres, qui savent et qui peuvent conseiller les autres techniciens pour qu'on sache à quel moment l'État doit régler la répartition des terrains à sa population. Alors, vous comprenez que si aujourd'hui, chacun s'élève pour dire « bon, ça c'est chez moi, il construit sa maison, on ne lui dit rien », c'est justement parce que l'État n'a pas pris les dispositions qui sont nécessaires pour que l'État s'établisse en tant que souveraineté pour dire « cet endroit-là, voilà ce qu'il faut en faire ». Et lorsqu'il a concédé un terrain à un particulier, savoir dans quel délai ce particulier doit investir sur le terrain. Et lorsque le particulier n'a pas fait, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que c'est un retour au domaine, etc.? Donc, je veux dire quoi? Je veux dire qu'il ne manque pas de documents. Il en a. On a des textes officiels qui sont là. Que, si vous voulez, tout à l'heure, on va aller en profondeur, disposition par disposition. On a aussi des techniciens qui peuvent conseiller les départements, comme le département de l'urbanisme, pour voir qu'est-ce qu'on fait en ce qui concerne les ouvrages publics. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, dans ce document très important, quelles sont les parties qui sont du domaine public, les écoles, les hôpitaux que l'État peut utiliser? Quelles sont les parties qui sont les voies, les routes, les ports, les ponts? Tout ça, c'est entre les mains de l'urbanisme. Le transport d'électricité, par exemple, qui part de Boilly, il y a un domaine comme ça. Là, ça, c'est du domaine de l'urbanisme. Je pense que le directeur de cabinet ne me dira pas le contraire. L'affectation, par exemple, des domaines militaires, pour dire, bon, cette zone-là, l'État concède à l'armée pour mettre ses casernes, pour mettre ses sites d'entraînement. Tout ça, c'est dans la loi. Et c'est le ministère de l'urbanisme que la charge de l'État a été à sa disposition pour repartir de cela.
Il ne faut pas qu'on perde de vue sur les difficultés que rencontrent les centrafricains quant à ce qui concerne les litiges fonciers. Vous voulez répondre, monsieur le directeur de cabinet, monsieur Maliombo, vous avez compris qu'il y a un laisser-aller ou bien il y a un manque d'action de la part de votre ministère pour prendre le devant de choses.
Oui, je reviens un peu en arrière par rapport à la réaction de madame. Effectivement, le ministère de l'Urbanisme, à ce jour, l'État continue d'envoyer des étudiants à l'école africaine d'architecture au Togo. Le département de l'urbanisme, dès qu'ils finissent là-bas, c'est le département de l'urbanisme qui les emploie. À ce jour, nous avons beaucoup, beaucoup de techniciens, beaucoup de centrafricains qui sont revenus de Togo, des urbanistes, des gestionnaires urbains, des architectes qui sont là-bas. Le département est regorgé, en tout cas, des techniciens valables qui peuvent défendre l'intérêt du pays. Malheureusement, le schéma directeur dont je parle, l'outil de planification, là, ça nécessite des outils, c'est-à-dire que d'importants moyens techniques, des logiciels, des appareils de survol du territoire, tout ça là. Nous, au niveau du département de l'urbanisme, on n'a pas ces moyens-là. Donc, il est nécessaire de confier ce travail-là, soit à un cabinet d'études qui a les moyens nécessaires pour mener à bien ces études-là.
Mais est-ce que vous avez émis le vœu au gouvernement?
Le vœu a été émis, je pense
que c'est quand même c'est un État.
En 2010-2011, la BAD avait. Nous avons reçu un financement de la part de BAD à hauteur de 500 millions de francs CFA. L'avis d'appel d'offres a été lancé. Un cabinet burkinabé a été retenu. Malheureusement, avec les événements de 2013, ce cabinet n'a pas pu réaliser les études. Et l'argent a été utilisé pour d'autres fins. Parce que ce sont les troubles militaro-politiques, les ceci, les cela, qui créent que nous ne pouvons pas avancer dans notre pays. Sinon, depuis 2011, on devrait déjà avoir un outil de planification. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Maintenant, en ce qui concerne la réaction de mon aîné, le ministre, tout à l'heure, ça dit que c'est ce que nous faisons en ce moment. Les questions de gestion des terres, ainsi de suite, c'est ce que le département de l'urbanisme est en train de faire. Malheureusement, je dis, c'est la question des occupants traditionnels qui bloquent l'avancée, l'urbanisation de nos villes. Aujourd'hui, quand on avait démarré les travaux de Landia, par exemple, Landia est devenu le 9e arrondissement de la ville de Bangui. Nous avons lancé les opérations là-bas. Mais nous nous sommes heurtés à la réaction de la population. Mais nous nous sommes battus en tant qu'hommes pour que le projet de Landia puisse être réalisé. Aujourd'hui, nous sommes sur la route de Mbaïki vers Balongo pour faire les mêmes choses. C'est-à-dire que à l'absence de ces outils de planification, mais on n'est pas resté bras croisés. On est obligé, puisque la demande, comme a dit Mme le ministre tout à l'heure, la demande, elle est forte. Nous recevons tous les jours des milliers et des milliers de demandes de la population. Mais le besoin est insuffisant.
Bon, voilà, on ne va pas parler de ces besoins, mais on va parler de ce qui provoque les litiges, là, ce qui provoque la colère de ces occupants ou bien qui crée des conflits entre les Centrafricains. Les services de cadastre, madame, ont été souvent indexés comme auteurs de ces litiges fonciers. Est-ce que tout ce qui se fait dans la République où la répartition des terres, cela se fait par exemple en complicité avec les agents des cadastres qui vont sur le terrain, ça pose des problèmes parce que ça manque de méthodologie.
Ce que je sais, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de litiges fonciers et que les tribunaux, c'est vrai, sont inondés par par ces problèmes-là. Mais est-ce que les responsabilités, moi je dis que les responsabilités sont partagées. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le ministère de l'urbanisme donne l'impression d'avoir perdu le contrôle de la situation. Et les gens ont la latitude de s'installer comme ils veulent, hein, où ils veulent. Et je dirais même plus grave, il y a des zones qui devaient même être déclarées des zones inconstructibles. Quand vous voyez toute la bande au bord du fleuve, qui fait l'objet chaque année d'inondations, cette zone, en principe, au niveau du ministère de l'urbanisme, doit être déclarée comme une zone inconstructible. Le ministère de l'urbanisme doit travailler comme un accord avec le ministère de l'Environnement pour établir des cartes des zones à risque. Donc, c'est un travail de fond qui doit être mené, mais à chaque fois, il y a un laisser-aller. Et les gens s'installent. Et en cas de catastrophe, en cas d'inondation, on sait que les inondations sont cycliques. En cas d'inondation, eh bien, c'est toujours les mêmes réflexes. Aller au secours, l'humanitaire pour sauver les gens. Et puis après, un an, deux ans, les gens viennent se réinstaller dans les mêmes maisons, dans les mêmes conditions, alors qu'en principe, le mode opératoire devrait changer. Donc, moi, je dis que les responsabilités sont limitées parce que du côté de l'urbanisme, il n'y a pas de mesures qui sont prises. Et du côté de la population aussi sait que quand une zone est inondable ou quand vous vous installez de manière anarchique, du jour au lendemain, vous vous exposez à une répression de la part du ministère de l'urbanisme. Donc, les responsabilités sont en fait partagées. Mais après, il y a ce qu'on peut appeler des cas par cas. Hein, on ne peut pas vraiment faire une analyse globale. On fait l'analyse globale. Mais après, quand on rentre en profondeur, il faut étudier les dossiers au cas par cas.
Monsieur Bindoumé.
Alors, moi, je crois qu'on est en train d'aller vraiment en profondeur pour trouver les questions sur la ville de Bangui. Alors, je voudrais dire au directeur de cabinet que nous ne sommes pas venus pour vous attaquer. On ne vous attaque pas. Vous représentez un département ministériel du gouvernement de la République et les observations que nous allons faire, ce sont des observations qui concernent non pas vous, mais qui concernent l'État. Donc, je crois que la mise au point étant faite, je voudrais répondre sur la question de planification. Messieurs du ministère de l'urbanisme, je préfère appeler comme ça plutôt que de dire monsieur le directeur de cabinet, vous savez que vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses en République centrafricaine et particulièrement sur la ville de Bangui, mais que vous ne faites pas. Vous attendez, je vous ai écouté, que la BAD vienne vous donner les moyens. Vous savez aujourd'hui que votre département a des services techniques importants qui peuvent par exemple dire le quartier Bakunja, le quartier Ngongono, le quartier je ne sais pas quoi, non urbanisés. Nous, nous allons rester, nous allons mettre les GPS et nous allons faire un plan directeur. Par exemple, la largeur du quartier, les rues qui peuvent être susceptibles d'être tracées, les terrains qui peuvent abriter des écoles, des terrains qui peuvent abriter des centres hôpitaux, vous pouvez les traiter et l'afficher. Comme ça, toute personne qui habite ce quartier et qui construit, sait que, monsieur, là où vous construisez, demain, on risque d'ouvrir une route et votre propriété pourra être cassée. Vous comprenez, c'est le genre d'urbanisme que nous attendons. Nous attendons que vos services, avec les éléments compétents qui sont à votre disposition, que vous avez envoyés, formés, il faudrait qu'au lieu d'aller à Lanja, au lieu d'aller à Mboko, au lieu d'aller à je ne sais pas où, à Samba, mais commencez déjà. C'est là que nous, notre visibilité est claire à l'endroit des étrangers qui viennent chez nous. Mais commencez par un quartier comme le quartier combattant. Il y a des endroits où quelqu'un qui a construit une maison ne peut même pas aller en moto jusqu'à sa maison. Parce que l'urbanisme n'a pas prévu un plan directeur. Vous n'avez pas besoin de la BAD pour ça, pour qu'on sache que là où monsieur...
Ça, c'est l'air de jeu, ça, c'est le passage.
Ça, c'est le passage, ça, c'est l'école, ça sera avant d'aller à Samba. Commençons par là. Commençons par ça. Commençons par dire, je vous ai lu un texte ici. Je vous ai dit qu'il y avait un domaine public artificiel. Le domaine public artificiel, c'est quoi, monsieur le ministre, ou monsieur le représentant du ministre? Mais ce sont des cours d'eau, ce sont des étangs. Mais aujourd'hui, les gens construisent à côté des endroits qui étaient considérés comme des cours d'eau, dont on ne peut pas construire 25 mètres à côté de ces endroits-là. Et puis aujourd'hui, tout le monde parle d'inondation en République centrafricaine, parce qu'on n'a pas pris les dispositions pour leur dire « attention ». Ce que vous appelez comme canal, le canal où les Chinois ont fait un pont, comment ça s'appelle, le pont de...
Sapeke.
Sapeke. Mais Sapeke, le pont de Sapeke, c'est un cours d'eau qui vient de Gobongo et puis qui arrive là. Mais on a laissé faire, on a laissé les gens construire à côté de ce canal. On a laissé les endroits qui sont considérés comme des étangs, donc inondables, sans aucune mise en œuvre. On a laissé les gens s'installer et puis on a laissé les gens se mettre dans ces conditions-là pour aller... À Samba, pour aller à Lanja, pour aller à Baloko, alors qu'on devait commencer par là. Mais maintenant, nous allons revenir en détail plus tard. Quels sont les litiges que cela provoque? Les installations anarchiques.
En plus de ces installations anarchiques, mais il y a aussi certaines questions qui concernent directement les agents de service. Les cadastres sur le terrain, qui vendent du terrain à X, à Y, mais pour un seul terrain ou une parcelle, on fait acheter à plus de 4-5 personnes. Non, c'est non. Ça qui pose problème. Attends, et pour nous, c'est ces litiges qui posent problème parce que c'est ça qui est toujours pendant devant les tribunaux.
Non, je crois que ce que vous avez dit là, vous avez entièrement raison. Et je crois que nos auditeurs qui nous suivent ont envie de pleurer. Parce que vous savez, le directeur de cabinet vous a dit qu'ils ont envoyé beaucoup de personnes en formation. Ils ont envoyé beaucoup de personnes en formation quand ils sont revenus. Comment on les utilise? Je vous donne un exemple. Vous ouvrez Gualoko, mais vous amenez des techniciens. Et qui accompagne les techniciens? Mais ce sont des villageois qu'ils prennent comme ceux qui vont tirer le câble, comme celui qui vont tirer ceci, comme vont tirer cela. Quand l'opération est terminée, le technicien retourne parce qu'il doit aller travailler ailleurs. Et ces gens qui ont tiré les fils commencent à remorceler les parcelles.
Ils deviennent des techniciens.
Ils deviennent des techniciens. Ils remorcellent les parcelles pour les vendre à autrui. Aujourd'hui, nous avons ça. Nous avons des agents de cadastre. Enfin, des agents que le cadastre a associés aux techniciens de cadastre. Je fais la distinction pour faire comprendre. Qui vont sur le terrain. Et puis qui se comportent sur la terre comme si c'était leur terre. Et puis qui disent, je vais te donner ou je vais te retirer. Ils font ça. Bon, vous savez...
Des titres fonciers, etc. Voilà, pour ce qui fait problème.
Bon, alors...
Ça fait couler de l'encre et de salive. Et c'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui.
Bon, nous sommes là, effectivement, vous avez raison d'avoir mis le doigt sur la plaie. C'est le dysfonctionnement au niveau du service public, de l'urbanisme, qui fait que, parfois, nous sommes considérés comme des troubles faits. Là où il n'y a pas de problème, c'est eux qui créent le problème. Pourquoi voulez-vous que le même, je vous donne un exemple, le même service qui vient vous faire un acte de pré-reconnaissance, je crois qu'on appelle ça comme ça, il vous dit ça sur votre terrain, la même personne revient faire un acte de pré-reconnaissance à quelqu'un d'autre sur le même terrain. Comment vous trouvez ça? Et donc il y a
il y a un problème. Mais on y revient. Madame Gounebana, vous voulez rebondir tout à l'heure avant qu'on donne la parole à Monsieur Maléombo.
Je voulais juste compléter l'argumentaire du ministre quand on parlait de la qualité des ressources humaines disponibles au niveau du ministère de l'urbanisme. Je voulais dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup. J'ai parlé tout à l'heure des quartiers informels qui se sont installés par rapport aux habitats spontanés, tout. Et que le ministre a dit tout à l'heure qu'il va falloir aussi commencer par là, essayer de voir comment il faut réorganiser ces quartiers-là, ces quartiers anciens, et comment pouvoir corriger le tir au niveau, par exemple, des quartiers Seydou, du quartier Gbakunja, etc., etc. Mais je veux dire aussi qu'il y a des exemples de nouveaux quartiers qui ont été lotis, où moi personnellement j'ai constaté des manquements. Quand vous prenez un nouveau quartier comme Bellevue, hein, c'est un nouveau quartier qui existe depuis 2 ou 3, 4 ans, je pense. Mais qu'est-ce qui manque à ce quartier-là? Mais il manque beaucoup de choses. On peut pas mettre, 5000 personnes dans un endroit uniquement avec des habitations. Il y a les habitations, mais en matière de règles d'urbanisme, il faut prévoir d'autres équipements. Mais allez aujourd'hui au quartier Bellevue, est-ce que vous allez trouver une école? Est-ce que vous allez trouver un dispensaire? Est-ce que vous allez trouver un commerce? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, ça c'est un exemple récent de lotissement, mais qui n'a pas été fait dans les normes, alors que il y a des ressources disponibles au niveau du ministère de l'urbanisme. Donc on avance, certes, mais essayons d'avancer en respectant toutes les normes en matière d'urbanisme. Donc, je voulais parler vraiment de ça, parce que c'est vrai qu'il y a tout le passé qu'il faut corriger, mais quand on avance vers le futur, il faudrait faire vraiment les choses dans les règles de l'art.
Monsieur le directeur, s'il vous plaît, avant d'intervenir, vous allez prendre en compte aussi la question de ce que vos collègues sont souvent indexés de vendre un seul terrain à 10 et 5 personnes.
Je voudrais rebondir sur la réaction de monsieur le ministre, parce que il avait souhaité qu'on règle le problème de Bakonja, le problème de Seydou, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, vous savez que la population de la ville de Bangui croît énormément et les gens s'installent. Vous voyez sur la route de Boali, sur la route de Mbaïki, sur l'axe Lanja-Moko, les gens commencent à s'installer et de manière anarchique. Pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs du passé, il fallait freiner cette avancée-là, cette poussée-là. C'est pourquoi nous nous sommes dit il fallait se pencher dans ce secteur-là, le secteur de Lanja, le secteur de la route de Mbaïki, la route de Boali, pour freiner l'avancée démographique de la population dans ce sens-là. Sinon, on va toujours rester dans les mêmes systèmes, dans les mêmes erreurs du passé. C'est-à-dire qu'en créant des quartiers spontanés. Et c'est ça que nous disons non. Ça, on ne peut pas le faire. À l'ère où nous sommes, le 21e siècle, on ne peut pas continuer de laisser les gens s'installer de cette manière. Il fallait bloquer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais le département n'est pas resté les bras croisés. Nous avons mis en place une équipe technique qui est en train de travailler sur le secteur de Seydou et le secteur Benzif Sauvage. Le Benzif Sauvage, aujourd'hui, nous avons déjà le rapport documenté, déjà disponible sur la table du ministre. Il reste le secteur de Seydou. Mais vous savez, reconstruire un vieux quartier, c'est très difficile. Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas de ressources financières pour indemniser tous ces gens-là. On va les mettre où? Il fallait recenser leur case, avoir la valeur, et trouver un site pour le relogement. Et tout ça, là, ça nécessite des moyens. Aujourd'hui, nous ne produisons pas assez de parcelles parce que nous ne disposons pas des ressources financières nécessaires pour faire nos activités. Et ça nous bloque. Et le secteur de Seydou, le secteur de tout ça, là, ça nécessite des moyens financiers pour le relogement et le recasement de tous ces gens-là. Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas le moyen pour indemniser tous ces gens-là. Mais le département ne dort pas. Nous sommes en train de travailler dans ce sens.
Revenons sur ma question tout à l'heure. Là.
La question des techniciens, vous savez,
Des litiges fonciers.
Oui, je ne pense pas que je ne suis pas Dieu pour savoir ce que fait un technicien.
À l'entente de cette émission, vous avez dit que vous avez beaucoup de contentieux qui vous arrivent.
Non, les contentieux, c'est que, par exemple, dans la ville de Bangui, aujourd'hui, ce sont des litiges entre les voisins. C'est ça qui nous arrive là-bas. Mais ce que, dans les lotissements que nous menons, quelles sont les difficultés? Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, avant de mener, un site a été identifié, on mène les opérations, il y a des gens qui sont, des occupants qui sont identifiés. À ces occupants, on leur concède une partie de la superficie de leur parcelle. Ça dit que si la personne a, dans l'aménagement, on trouve 5 lots ou 10 lots, on donne une partie à cet occupant traditionnel. Malheureusement, c'est quoi ? Le même occupant traditionnel qui a été déjà servi, mais ne veut pas céder le reste des parcelles que l'État, le ministère, a concédé à d'autres Centrafricains. Il prend l'autre parcelle pour les vendre. Et ça, la personne a son arrêté, mais ne peut pas rentrer en possession de la parcelle que le ministère lui a attribuée. Et du coup, ça fait double emploi. La personne veut s'installer, l'occupant traditionnel...
A vendu à quelqu'un.
Et la personne commence à construire. Malheureusement, l'autre partie qui n'a pas les moyens nécessaires pour contredire ou compromettre, pour s'opposer à ce occupant traditionnel, se laisse faire. Et nous avons tous ces contentieux-là sont pendants au niveau du tribunal de Bimbo. Et c'est ça la question que nous devons dire. Aujourd'hui, j'aurais souhaité que
mais est-ce qu'en lotissant
qu'on éduque un peu les occupants
avant d'arriver à cette éducation, est-ce que vous avez associé les chefs de quartier, les chefs de village?
Parce que les lotissements, aussi, ils sont accusés, dans tous les lotissements, ils sont associés. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Mais la question n'est pas là. La question, c'est que ces chefs de village, souvent, c'est eux qui vendent les parcelles avec la complicité des occupants traditionnels. C'est eux qui signent.
Et même aussi les attestations des agents de service cadastre.
Mais effectivement, il y a des agents véreux. Ça, je ne peux pas le refuser. Mais la majorité des cas, ça résulte de l'incompréhension des occupants traditionnels. La majorité des cas. Et des litiges que nous rencontrons aujourd'hui. Vous allez au niveau du tribunal de Bimbo, c'est ça là. Vendu, le ministère a attribué. L'occupant traditionnel a pris et a vendu à quelqu'un et on est en train de tourner dans ce sens. Mais depuis 2 ans ou 3 ans, nous sommes en train de freiner les choses. Aujourd'hui, dans tous les aménagements que nous sommes en train de faire, il n'y a plus question d'occupant traditionnel. On soumet toutes les personnes au paiement de la taxe. Vous voulez conserver votre parcelle, vous payez les 10 lots ou les 5 lots, tout ça là dans la caisse de l'État, vous avez votre parcelle. Dans le cas contraire, vous payez ce que vous pouvez payer et puis on vous concède et le reste on donne aux autres.
Monsieur Bindoumi, pour freiner un peu vous avez écouté monsieur le directeur de cabinet, monsieur Pomphile Maliombo hein, de l'urbanisme, sur cette question de litige foncier, même terrain, on va en 2, 3, 4 personnes et ça crée des soucis, de conflits au sein de la population.
Le directeur de cabinet nous a donné une face. L'autre face, c'est vraiment l'iceberg. Parce que, en fait, vous savez, quand le gouvernement, particulièrement le ministère de l'Urbanisme, se rend compte que là, aujourd'hui, où il y a trop de problèmes fonciers, c'est dans la juridiction des cadastres de Bimbo. Et quand vous arrivez au cadastre de Bimbo, j'invite le directeur de cabinet à faire un saut, vous allez voir que les agents là-bas travaillent sur des cartes qui sont déchirées. Donc, vous ne pouvez même pas vous retrouver quand vous voyez ces cartes. Et donc, ces cartes qu'on a à volonté déchirées, permet qu'on ne sache pas à qui appartient le terrain qu'on veut vendre ou qu'on veut donner à une autre personne.
Et donc, il y a un flou.
Il y a un flou total. Et que vous comprenez que les cadastres de Bimbo prennent la juridiction de l'ancienne préfecture de Lombelampoko. Donc, il va jusqu'à la limite avec Damara, limite avec Baiki, etc. Et c'est le seul le service aujourd'hui qui travaille de manière primitive. J'insiste sur le mot « manière primitive ». Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des matériaux simples pour les services de cadastre. Par exemple, un GPS qui vous permet d'identifier les limites de l'endroit où sera placé un centre hospitalier, de l'endroit où sera placée une école, de la largeur des terrains qu'on veut concéder sous forme de lots, etc. Mais les cadastres de Bimbo, qui ont les 80% des litiges devant les tribunaux, ont des petites cordes avec des poteaux de jumelles pour faire n'importe quoi, dont vous ne pouvez même pas...
Avec
un document flou, dont vous ne pouvez même pas être sûr que les limites qu'il vous a mises sur la carte correspondent bien à ce que l'État vous affecte. Donc nous avons ça. Et nous pensons que les services de cadastre, le ministère, particulièrement, doit regarder ça. Et lorsque vous identifiez, monsieur le directeur de cabinet représentant le ministre, qu'il y a des agents véreux, j'insiste sur le mot, véreux, que vous avez rencontrés, qu'on a appelés à témoigner sur une fraude qui a été opérée, mais pourquoi vous gardez ces gens? Pourquoi vous ne les sanctionnez pas?
Mais en d'autres termes, est-ce que vous cautionnez ce qui se passe? Vous notez, vous arrivez.
Donc, pourquoi vous ne les sanctionnez pas? Je reviens sur tout ce qu'on a dit. Moi, j'ai une propriété vers Samba. J'ai vu les ouvertures que vous avez faites là-bas. Où se trouvent les parties que vous avez réservées pour des centres de santé? Où sont les parties que vous avez réservées pour une école? Où est-ce que le jardin que vous avez réservé? Oui, quelle est la partie que vous avez réservée pour un centre culturel? Quelle est la partie que vous avez réservée pour un terrain de football, un terrain de basketball, etc. Qu'est-ce que vous avez réservé? Vous ouvrez des routes, vous faites des lots, et puis vous vendez. Vous vendez, vous donnez à qui veut acheter. S'il veut acheter, comme vous avez dit, 10 lots, il achète 10 lots. Mais pourquoi? Et le texte que je vous ai cité.
Et donc ça veut dire que si c'est lui qui a beaucoup d'argent,
il prend la République, c'est ce qui a été dit.
Est-ce que vous avez fini, s'il vous plaît? Vous avez terminé, monsieur le ministre?
Je voudrais finir rapidement.
Le cas de Kwalongo, le plan existe en ce moment. Vous pouvez vous rapprocher des services du cadastre, vous allez regarder le plan. Vous savez, nous avons travaillé Kwalongo avec des GPS. C'est tout ça là, c'est pour pallier aux carences qui existent avant au niveau des services de cadastre.
De Bimbo.
Oui. Effectivement. Nous avons, ça c'est une équipe renforcée qui est en train de mener les opérations au niveau de Kwalongo en ce moment, au niveau de Samba. Il y a l'équipe de Bangui accompagnée avec l'équipe de Bimbo, avec GPS qu'on est en train de travailler là-bas, et avec des nouveaux outils, des stations totales qu'on est en train de travailler là-bas. Je voulais vous montrer la carte, le plan d'aménagement que nous avons initié, que nous avons eu. Tous ces équipements sont réservés.
Vous chutez, monsieur le ministre.
Donc, je voudrais dire qu'effectivement, il y a des agents de cadastre qui contribuent à poser des actes inacceptables. Je rechute encore pour dire, monsieur le ministère de l'Urbanisme, vous vous rendez compte que les chefs de quartier, non seulement vendent les propriétés que vous validez, mais en plus, lorsque des parties font des transactions sur leurs propriétés, le chef de quartier, sous prétexte qu'il a utilisé son cachet, retient 10% du prix qui a permis. 10%. C'est tiré de quelle loi? 10%. Ça veut dire que si quelqu'un achète un terrain de 1 million, le chef de quartier va avoir 100 000 francs. Est-ce que les mêmes 100 000 francs, quelqu'un qui est à Bangandou, qui est ce chef de quartier, est-ce qu'il fait ça? S'il fait ça aux gens qui coupent nos bois dans la forêt ou qui ramassent l'or, il serait le milliardaire de la terre. Alors donc, vous comprenez pourquoi vous laissez sans dénoncer ce genre de choses. Et surtout que la loi que je vous ai citée tout à l'heure dit que la terre ne se vend pas.
Oui, rapidement pour avancer, Madame Constance Gounebana, sur la question, tout ce que vous avez écouté, complicité de certains agents de services de cadastre, etc., qui créent ces litiges, et beaucoup plus au sein du tribunal de Bimbo.
Oui, ben ça existe, hein. C'est un secret pour personne. Ça existe des agents indélicats, hein, du département de l'urbanisme. Ça existe aussi des chefs de quartier, des chefs de village indélicats qui sont toujours là en train de vendre pour un même terrain, de vendre 2, 3, 4 fois à des personnes différentes. Et à ce moment-là, il faudrait que la force revienne à la loi. Il faut frapper, parce que quand vous frappez pas, eh ben ça continue. Bon, moi je voulais tout simplement aussi appuyer le ministre dans ses propos quand il disait tout à l'heure que le ministère travaille quand même de manière archaïque. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai parce que nous qui sommes un peu, je dirais pas du domaine, mais qui avions aussi des propriétés, quand on fait appel à des agents du cadastre du service public et quand on fait appel à des agents du secteur privé, on voit tout de suite la différence. Les agents privés sont mieux équipés en GPS et quand vous sortez un plan de situation, les contours sont exacts, même les contours de cours d'eau sont exacts. Alors comment voulez-vous faire les contours d'un cours d'eau sans GPS? Hein? Donc nous, ça c'est vraiment, il y a un défi à ce niveau-là qu'il faudrait vraiment essayer de voir comment vous pouvez moderniser l'administration au niveau de votre département.
Monsieur, rebondissez avant qu'on évolue,
oui,
parce que le temps fait du
bon. Ce que vous dites est vrai, parce que peut-être que vous ne tombez pas entre les bonnes mains. Peut-être. Aujourd'hui, je dis, hein, le département est en train de mener des réformes. Pour une superficie qui dépasse les 5 hectares, on ne peut pas travailler avec les chaînes. Ça, c'est impossible. De tous les travaux que nous sommes en train de mener au niveau des départements là-bas, il y a une équipe de géomaticiens à qui on confie ce genre de travail. Mais quand vous allez directement à la direction régionale de Bimbo là-bas, on va vous donner un petit chaîneur qui n'a pas la maîtrise de prendre des mesures d'une grande superficie. Vous prenez, vous allez sur le terrain, alors que non. Il fallait se rapprocher de l'administration centrale. On mettra à votre disposition les éléments nécessaires, compétents, avec des GPS pour aller faire le travail. Au-delà de 5 hectares, on ne peut plus mesurer avec les chaînes. Ça, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Malheureusement, au niveau de Bimbo, seul le chef de service a un GPS et le directeur régional. Mais les autres petits agents qui sont là-bas, là, vous les prenez pour aller... Non, il ne peut pas. Il ne peut pas faire le travail. Et ce ne sont pas des techniciens qualifiés. Ce sont des petits chaîneurs, des petits ceci, qui sont formés sur l'État et qui mènent les opérations là-bas. D'où la nécessité de se rapprocher de l'administration centrale. Même dans le même cas, avant de prendre un technicien pour aller sur le terrain, il faut saisir le ministre de l'Urbanisme. C'est ça la question. Alors vous travaillez, les usagers aussi travaillent à l'informel. Il faut écrire à Madame le ministre de l'Urbanisme et on va étudier le dossier et on mettra à votre disposition les techniciens nécessaires pour aller faire le travail. Mais si vous ne vous rapprochez pas de notre département, mais vous allez directement au Bimbo là-bas.
Et ça, et c'est ce que vous avez dit, la question de l'éducation. Ce que vous dites, c'est ce que vous savez, vous pensez que les gens maîtrisent cette procédure.
Mais nous faisons, il y a une émission Urbanisme Magazine où j'explique tout le temps à la population la procédure d'obtention d'un terrain. La procédure, ça j'explique tout le temps dans l'émission Urbanisme Magazine. Malheureusement, les gens sont toujours pressés, ils vont directement au département, à la direction régionale là-bas, on les prend pour aller sur le terrain et puis ça pose des problèmes. Vous dites que la question des parcelles vendues par les chefs des villages, ainsi de suite. Moi, on est à Bangui, on ne peut pas contrôler toutes les activités qui se mènent au niveau de provinces. Mais quand les dossiers arrivent chez nous, c'est là où on réagit. Vous allez par exemple sur la route de Mbaki, mais les dignitaires, les hommes politiques, vous savez combien ils ont acheté là-bas, entre les mains de ces occupants, de ces chefs-là? Des hectares. Certains ont acheté même dans les PEA des sociétés forestières. Et tous ces dossiers-là, il y a eu une forte pression de ces hommes politiques et ainsi de suite au niveau de Bimbo pour la délivrance de ces arrêtés. Mais l'institution a été donnée pour que ça, là, on ne peut pas le faire. Mais on ne peut pas citer les gens aussi. Il y a l'autre de dossiers achetés par les autorités de ce pays, des intellectuels de ce pays, au niveau de la route de Mbaki, Ndangala, Bimon, les PEA de Centrabois, tout ça là.
Est-ce que ce sont des achats qui ne respectent pas les
normes? Qui ne respectent pas les normes. Parce qu'ils voient les chefs de village, ils font les transactions là-bas, mais ils reviennent maintenant vers le ministère de l'Urbanisme pour aller délimiter. Non, ça, on ne peut pas le faire.
Monsieur le directeur cabinet, il y a une question. Vous voulez rebondir? Allez-y, reprenez quelques secondes comme ça.
Je voudrais dire, mais ce que j'attends du directeur de cabinet, c'est pas possible.
Ah oui, mais c'est la réalité.
Attendez, je dis c'est pas possible. Pourquoi? Parce que, en réalité, si une société de bois a pris une propriété quelconque, on doit afficher dans la zone
et la
limitation de la superficie pour que quiconque se rende compte qu'à cet endroit, de tel kilomètre à tel kilomètre, c'est une zone attribuée à une société forestière. Mais ce n'est pas l'individu, quand il trouve une forêt, rien, le chef de quartier n'est même pas au courant que l'endroit qu'il vend...
Non, je ne pense pas.
Ah, vous ne pensez pas?
Non, la société forestière Centrabois et Ndangala depuis des années, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Les chefs de village là-bas le savent. Mais ça ne les empêche pas de vendre. J'ai été en mission là-bas pour tenir une réunion avec ces chefs-là. Malheureusement, on n'a pas été compris. Mais ce sont les intellectuels qui vont là-bas, qui achètent.
S'il vous plaît, c'est
des cas comme ça qu'il fallait dénoncer.
On va le couper.
On accuse le ministère de l'Urbanisme, mais il y a aussi une réalité de la part de la population.
Oui, madame, une minute, si vous en prie.
Non, mais je voulais parler tout à l'heure parce que le monsieur le directeur de cabinet disait que pour certaines questions, il faut écrire au ministre de l'Urbanisme qui va mettre à disposition des techniciens. Mais vous savez que quand on se rend là-bas à l'administration centrale, on nous renvoie vers Bimbo. On nous dit c'est pas l'administration centrale qui traite les questions de périphérie, c'est Bimbo. Ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que tout le monde va directement à Bimbo. Mais concernant, moi je voulais juste parler de problèmes de foncier. Une personne, par exemple, qui achète 10, 20, 30, 40 hectares, qu'est-ce que vous avez en matière de politique foncière? Est-ce que c'est normal qu'une personne puisse s'attribuer autant d'hectares?
Au détriment des autres?
Non, mais je pense que je ne pense pas comme ça. Parce que si vous avez des activités, par exemple, agricoles à mener, il faut se rapprocher du ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture va saisir le département de l'Urbanisme et nous allons sur le terrain pour voir la possibilité. Est-ce que c'est pas dans un permis? Est-ce que c'est libre? Et c'est à nous d'aller étudier la possibilité de donner les parcelles.
Non, moi je vous parlais de ce que vous avez dit, que oui. Il y a des personnes là-bas. Ça fait partie des litiges aujourd'hui qu'il y a des personnes, des personnalités, des intellectuels qui vont là-bas et qui s'octroient des hectares et des hectares et des hectares.
Non, mais c'est contraire. C'est contraire à la loi parce que dans un PEA, on ne peut pas attribuer comme ça.
Mais en dehors des PEA aussi.
En dehors des PEA, ça.
Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal?
Si c'est question de culture, la personne peut avoir une parcelle et puis pour cultiver, ça ne pose pas de problème. Mais si ça rentre dans les PEA, il y a des règlements, il y a des
réglementations. Moi, je vous parle de l'échelle de grandeur. Une personne qui s'octroie 10, 20, 30, 40 hectares pour une seule personne, est-ce que c'est normal?
Aujourd'hui, avec la loi sur la tokenisation, la limite, c'est 10 hectares qu'on peut octroyer. Mais au-delà, en principe, l'État doit signer un bail avec la
Monsieur
personne.
Monsieur Maliombo, la toute dernière question pour qu'on puisse mettre fin à ce débat. Le pays connaît une tension de trésorerie, mais à l'heure où nous sommes, combien de millions de francs CFA que le Fonds d'aménagement et d'équipement urbain encaisse et verse au trésor public? Je voulais parler de votre ministère parce que vous morcelez ces parcelles, vous vendez, ça fait des millions.
Non, je ne peux pas vous répondre à cette, question parce que
on peut estimer.
Le FAE est à part. Ils encaissent, ils versent au niveau du trésor, et c'est à la fin que le bilan est établi. Et le bilan est établi avec l'inspection générale des finances qui passe à chaque fois pour faire le.
Non, je ne vous demande pas de nous dresser un bilan de cette année, mais de nous estimer, par exemple, l'année dernière, vous étiez là il y a longtemps, comme directeur de cabinet.
Oui, mais les pouvoirs sont séparés, monsieur Armando. Les pouvoirs sont séparés. Le FAE est à part. Le département mène la politique.
Et c'est vous qui coiffez.
Oui,
c'est
vous qui chapeautez. Le FAE a un conseil d'administration et c'est le conseil d'administration qui gère tout. Je ne participe pas à la réunion du conseil d'administration. Donc, il traite directement avec le Trésor et le ministère des Finances.
On va mener des enquêtes pour comprendre davantage. Quelques secondes, monsieur.
Oui, non, moi je voudrais demander au ministère de l'Urbanisme si vous vous rendez compte que Bimbo, le service de Bimbo, ne peut plus contenir le nombre de litiges qu'ils ont, il faut ouvrir un autre centre. C'est-à-dire que à l'époque, le tribunal de Bangui prenait tout. Mais lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des litiges qui sortaient, on a créé le tribunal de grande instance de Bimbo. Lorsqu'on s'est rendu compte que Bimbo ne pouvait plus tout contenir, on a créé le tribunal de Bossambélé. Alors aujourd'hui, vous vous rendez compte que vos bureaux qui sont à Bimbo ne sont plus capables de gérer Bimbo, Baloko et Lanja, je vous prie de dire à Madame la Ministre de proposer au gouvernement qu'on ouvre un autre bureau de service de l'urbanisme, soit à Bégoua, soit à Lanja. Je voudrais aussi répondre sur votre question de tokenisation ou de permis qui a été attribué à un certain nombre de personnes. Alors je voudrais vous dire que ça, c'est vraiment le désordre national parce que quelqu'un prend un terrain, par exemple à Yamboro, il appelle les services de cadastre qui lui font des délimitations de son terrain. Dès qu'il a fait les délimitations de son terrain par le service de cadastre, l'État octroie le permis à la société Centrabois sans extraire le permis qui a été accordé à quelqu'un qui était là avant. Donc même en Dangala, il y a des gens qui étaient là depuis 20 ans qui ont fait de l'agriculture à cet endroit, mais ça n'a pas empêché l'État de concéder à Centrabois ces terrains qui sont à cet endroit-là. Je vous informe aussi que dans la tokenisation, au niveau de Samba, on a ouvert sur Samba un titre foncier au nom de l'État, c'est d'ailleurs permis par la loi, mais ce titre foncier tombe sur des propriétés qui existaient là, et les propriétés sont obligées d'être couvertes par un titre foncier. Et maintenant, ce sont les propriétaires qui sont obligés d'aller se justifier pour dire là où vous avez mis le titre foncier tokenisation, c'est sur ma propriété et je vous demande de détacher ma propriété du titre foncier que vous avez créé par la tokenisation. Donc, vous comprenez que le problème de la République centrafricaine, c'est que effectivement, on a la souveraineté de prendre des dispositions, mais on doit prendre des dispositions en tenant compte des mesures qui ont été prises par l'État, parce que le service de
l'État... Et c'est le suivi, je suis désolé. Et c'est la fin de ce débat politique d'aujourd'hui consacré au litige foncier en République centrafricaine. J'espère que vous avez eu des réponses à vos préoccupations, car toutes vos réactions orales et écrites ont été prises en compte dans cette émission. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons reçu plus de 1000 et quelques réactions. Prochainement, on va solliciter M. le directeur de cabinet pour faire ce débat en direct, pour que vous répondiez directement aussi à nos auditeurs, parce qu'il y a beaucoup de soucis qui restent encore pendants, des fois sans suite, et qui frustrent les gens dans les tribunaux de Bimbo et de Bangui. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres, et merci à vous, nos invités, d'être venus. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bon week-end, et surtout, prenez bien soin de vous, car on ne vit qu'une seule fois. À la semaine prochaine, même heure et même fréquence. Au revoir.